RFI, 8h30 à Paris, 6h30 à Lomé et en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Arthur Ponchelet, à la une. Fornia Singbe s'apprête à devenir le premier président du Conseil de la 5e République du Togo.
Les députés doivent le désigner aujourd'hui quand les sénateurs, eux, éliront un président de la République. Une fonction largement honorifique, une partie de l'opposition critique toujours cette 5e République. Modifier le code du numérique pour favoriser la liberté d'expression et la liberté de la presse au Bénin, c'est ce que prône l'ONG Internet sans frontières. Alors que ce samedi marque la Journée internationale de la liberté de la presse. Dans ce journal aussi, un rapport sur l'origine des armes utilisées par les djihadistes au Sahel. La Sierra Leone face à une épidémie de Mpox. Suite de nos portraits de cardinaux africains à 4 jours du conclave pour élire un nouveau pape. Et puis notre dossier ce matin, Julien.
Consacré à la chasse traditionnelle chez les Nzebi du Gabon, une pratique ancestrale mais qui tend à disparaître. C'était il y a presque un an, malgré les critiques de l'opposition, le Togo promulguait sa nouvelle constitution.
Et les choses s'accélèrent dans la mise en place de la 5e République. Hier, le gouvernement a présenté sa démission et aujourd'hui, Fornia Singbe doit être désigné président du Conseil. Cela marque la fin de la transition vers un régime parlementaire. Magali Lagrange, comment va se dérouler cette journée ?
Première étape, ce matin, les députés togolais sont convoqués pour désigner le président du Conseil. Chef du gouvernement et des armées, il détient le pouvoir exécutif, selon la nouvelle constitution. Cette fonction revient au chef du parti majoritaire, à l'Assemblée nationale, donc au chef de l'État, Fornia Singbe, à la tête du pays depuis 2005. Les législatives de l'année dernière ont donné 108 sièges sur 113 à son parti Unir pour un mandat de 6 ans, des résultats toujours contestés par plusieurs partis d'opposition et organisations de la société civile. Le nouveau président du Conseil prêtera serment dans la foulée devant la Cour constitutionnelle. Cet après-midi, les députés et sénateurs se réunissent en congrès. Ils doivent élire le nouveau président de la République pour un mandat de 4 ans, une fonction devenue essentiellement honorifique. D'après la constitution de la 5e République, il accrédite les ambassadeurs, décerne les décorations et reçoit le président du Conseil pour être informé de l'état de la nation. De leur côté, une partie des opposants prévoit de se mobiliser demain pour un meeting.
Magali Lagrange. Lui doit prêter serment aujourd'hui à la tête du Gabon. Brice Clotaire-Oligui Nguema va officiellement débuter son mandat de 7 ans, cérémonie aujourd'hui à Libreville en présence de nombreux chefs d'État. Bassirou Diomaye Faye, Omaro Sissoko Embalo ou encore Teodoro Obiang Nguema, Paul Kagame et Félix Tshisekedi sont également annoncés.
La liberté de la presse recule en Afrique subsaharienne.
C'est Reporters sans frontières qui le dit dans son baromètre annuel publié à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. C'est aujourd'hui. L'ONG s'inquiète de la situation dans plusieurs pays du continent, notamment au Sahel. Le Bénin n'échappe pas à la récente vague de sanctions contre des médias indépendants. 2 journaux, 3 sites internet et un compte TikTok suspendus depuis le début de l'année. Alors comment faire valoir le droit à la liberté d'expression pour Kemal Afanyon de l'ONG Internet sans frontières ? Cela passe aussi par une révision du code du numérique dans le pays.
Nous estimons qu'il est important aujourd'hui de profiter en fait du projet de loi initié par le gouvernement pour modifier le code du numérique, pour mettre à niveau ce texte. Nous avons apporté en fait notre modeste contribution à la relecture de ce texte pour que les dispositions actuelles qui enfreignent à l'exercice du droit à la liberté d'expression puissent être modifiées conformément en fait aux engagements que le Bénin a pris en adhérant au mécanisme de l'examen périodique universel. Un mécanisme en fait qui a permis au Bénin de recevoir des recommandations de plusieurs États pairs, car ces États aujourd'hui estiment qu'il y a un recours abondant à la procédure pénale à des fins de dissuasion générale en République du Bénin, qui, grâce aux dispositions actuelles contenues dans le code du numérique, permet de dissuader de façon générale les voix critiques à l'endroit du gouvernement, et dans le même temps également qui vient fragiliser en fait la liberté d'expression des internautes béninois sur tout le territoire national et sur toutes les plateformes qu'ils utilisent pour faire valoir ce droit à la liberté d'expression.
Propos recueillis par Lisa Fabian. Et en cette journée de la liberté de la presse, les journalistes au Sénégal dénoncent la suspension de plusieurs centaines de médias qui ne répondent pas aux exigences administratives du code de la presse. On en parle sur RFI.fr. L'actualité au Sénégal, c'est aussi la levée de l'immunité parlementaire de 2 anciens ministres de Macky Sall. Décision de l'Assemblée nationale hier, Moustapha Diop et Salimata Diop, respectivement ministres du développement industriel et de la femme, lors de la mise en place du fonds anti-Covid, sont sous soupçonné d'avoir participé à un système de malversation de cet argent public.
6h35 en temps universel, d'où proviennent les armes utilisées par les groupes djihadistes au Sahel?
C'est la question à laquelle tente de répondre un rapport du Conflict Armament Research, un projet de recherche européen qui trace les armes utilisées dans les conflits à travers le monde. Pour cette étude, publiée cette semaine, les chercheurs concluent que les armes utilisées par le JNIM, liées à Al-Qaïda, ou par l'État islamique au Sahel, proviennent majoritairement du pillage des armées de la région, David Baché.
Au moins une arme sur cinq, 20% de l'arsenal djihadiste provient des armées régulières de la région. Elles ont été amassées lors d'attaques menées sur place contre les forces maliennes, nigériennes et burkinabées. Mais le Conflict Armament Research a aussi identifié des armements provenant des forces de Côte d'Ivoire, du Libéria, de Libye, du Nigeria et du Tchad. Ces détournements constituent, selon les chercheurs, la principale source d'approvisionnement des groupes djihadistes, qui en ont même fait un aspect clé de leur double stratégie, affronter militairement les autorités étatiques et se procurer les armes nécessaires pour mener leurs opérations. En témoigne la propagande du JNIM qui diffuse régulièrement des vidéos présentant ces butins de guerre. Plus de 700 armes récupérées lors d'opérations antiterroristes ont été analysées. Fusils mitrailleuses, lance-grenades, mortiers. L'enquête conclut que les groupes djihadistes s'approvisionnent essentiellement à cette échelle locale du fait des contraintes logistiques et géographiques. Lorsqu'elles n'ont pas été pillées aux armées régulières, leurs armes vieillissantes ont souvent servi à d'autres acteurs illicites de la région. Les chercheurs assurent n'avoir trouvé aucune preuve convaincante de l'existence d'approvisionnement direct en armes depuis l'extérieur du Sahel central.
David Baché, un grand rassemblement prévu aujourd'hui à Bamako, le Mali, où les partis politiques appellent à la mobilisation pour exiger la fin de la transition et défendre la démocratie. Plus d'une centaine de partis vont d'ailleurs présenter une déclaration commune rejetant les conclusions des consultations des forces vives, consultations qui recommande, je vous le rappelle, notamment la dissolution de tous les partis et l'installation d'Assimi Goïta à la tête du pays sans élection. Plus de 2000 cas et 9 décès depuis le début de l'année, la Sierra Leone face à une épidémie de Mpox. Willy Diallo, d'après le ministère de la Santé, le nombre de cas a doublé en une semaine.
On recense 75% des cas dans la capitale Freetown. En février, le gouvernement y a ouvert 4 centres de traitement pour améliorer la prise en charge des patients. Entre-temps, une campagne de vaccination a pu être lancée grâce aux 60 000 doses de vaccins fournies par l'OMS. Jusqu'ici, 2500 personnes ont été vaccinées, a déclaré le ministère de la Santé. Il a promis d'intensifier les campagnes de vaccination dans la capitale, les villes frontalières et les zones rurales. Les vaccins sont destinés en priorité aux enfants à partir de 12 ans, aux personnes à risque et aux personnels de santé particulièrement exposés au virus. En janvier, les autorités ont déclaré l'état d'urgence sanitaire dans le pays, mais depuis, les cas ne cessent de se multiplier. Et pour Sulu Lansana, membre du service de vaccination du ministère de la Santé, c'est la désinformation et la peur qui entourent le virus Mpox qui empêchent certaines personnes d'aller consulter un médecin. En conséquence, ils prennent le risque de propager la maladie à leur insu avant d'être diagnostiqués.
Willy Diallo, au moins 27 civils tués au Soudan, dans la ville d'En-Naoud, c'est dans le centre du pays, attaque imputée aux paramilitaires des forces de soutien rapide par un collectif pro-démocratie. Nouvelle illustration de la guerre qui fait rage depuis plus de 2 ans dans le pays. Vous le savez, toute la semaine, RFI vous a proposé une série de reportages grand format à Khartoum, mais aussi à Port-Soudan ce matin, où Gaël Lalex est parti à la rencontre des déplacés qui tentent de rentrer chez eux. Reportage à écouter en intégralité sur RFI.fr.
Dans 4 jours, très exactement, sous les peintures de la chapelle Sixtine du Vatican, 2 mots retentiront: extra omnes.
Tous dehors en latin, le coup d'envoi formel du conclave pour élire un nouveau pape d'ici à mercredi, date du début donc de ce conclave. RFI vous présente les principaux cardinaux africains. Qui sont-ils? Quel est leur poids? Et ont-ils des chances pour certains d'être élus pape? Ce matin, coup de projecteur sur Peter Turkson. Il est ghanéen, cardinal depuis plus de 20 ans. Et Victor Cariou, il s'est notamment illustré pour son engagement en faveur de la paix.
Le cardinal Peter Turkson est un défenseur convaincu de la non-violence. En 2016, il disait par exemple préférer la juste paix à la guerre juste, une conviction que l'homme d'église de 76 ans a porté près d'une décennie à la tête du Conseil pontifical Justice et Paix. C'est d'ailleurs lui que le pape François choisit d'envoyer dans un Soudan du Sud en proie à la guerre civile pour assurer une médiation. négociation. Et la confiance que le souverain pontife accorde à Peter Turkson ne s'arrête pas là. Participation à l'élaboration de la doctrine environnementale de l'Église, défense des droits des migrants ou encore dialogue avec les géants économiques mondiaux à Davos. En dépit de sa proximité avec le pape François, l'homme d'Église ghanéen a pu adopter des positions bien plus conservatrices que celles du chef du Vatican, notamment en matière d'homosexualité. Un point de vue qui, selon ses proches, confère à l'ancien archevêque de Cape Coast au Ghana une position centrale et influente au sein de la curie romaine. Victor Cariou, Accra, RFI.
Rendez-vous donc mercredi prochain, le 7 mai, pour le début du conclave à Rome. On le suivra évidemment sur nos antennes.
C'est une activité traditionnelle, indispensable, mais qui se raréfie. Notre dossier ce matin est consacré à la chasse.
Chez les Nzebi du Gabon, une ethnie du sud et du sud-est du pays. Mais face à l'évolution des modes de vie et des populations, la chasse traditionnelle est de moins en moins pratiquée, Penaï Traoré.
Chez les Nzebi, on pratiquait la chasse au début et à la fin de chaque récolte et de chaque saison. Aller à la chasse, c'était aussi un moment d'initiation pour les jeunes garçons. Antoine Dongo est Nzebi, il continue de pratiquer la chasse traditionnelle transmise par ses parents.
Cette activité représente une importance chez les Nzebi, dans le cas où nous avons des cérémonies ou bien, par exemple, des circoncisions chez nous. Quand il s'agit de circoncier, par exemple, les jeunes garçons, nous organisons une partie de chasse avec les gens du village. Au sortir de là, ce produit-là va servir à organiser, par exemple, la cérémonie de circoncision ou bien d'initiation.
Aujourd'hui, la chasse dans sa forme traditionnelle chez les Nzebi se fait rare, les jeunes s'orientant vers un mode de vie plus moderne, déplore Antoine Dongo.
Vraiment, l'activité ne se fait plus de manière régulière. D'ailleurs, ça devient difficile un peu avec l'évolution du temps. Beaucoup ont déserté nos villages pour la ville à la recherche de l'emploi. Et le matériel aussi, pour l'avoir pour l'instant, c'est difficile. Les jeunes n'ont plus cette possibilité d'apprendre à tisser et à fabriquer, par exemple, un filet de chasse. Donc, c'est là où ça devient un peu plus difficile.
Les Nzebi doivent aussi s'adapter aux différentes réglementations régissant la chasse au Gabon et à la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition.
Penaï Traoré. Autrefois, la chasse se pratiquait avec des armes traditionnelles comme des filets tissés et des lances fabriquées à base de matériaux puisés dans la nature. Mais au fil du temps, ces méthodes ont disparu. Comment l'expliquer? Pour Rodrigue Lécou-Lekissa, historien et enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville, le recul de la chasse traditionnelle aujourd'hui, même dans l'arrière-pays, est lié à l'utilisation des armes plus modernes introduites par la colonisation, transformant la chasse en une activité commerciale.
Le problème est lié aux conditions de vie, à l'aspect pécuniaire. Dans des villages, il y a encore des sociétés qui vivent essentiellement un peu de produits de la forêt. Donc ceux-là, à ce niveau-là, on verra des gens qui vont simplement aller faire de la chasse simplement pour nourrir la famille. À ce niveau-là, le problème ne se pose pas. Mais le problème vient du fait que beaucoup de chasseurs aujourd'hui font de la chasse leur principale activité. À partir du moment où ils arrivent à avoir de l'argent, ils délaissent les pièges. Parce que Le calibre 12, quand vous le prenez, quand vous allez en forêt, vous allez sortir avec une quantité importante de gibier. Contrairement au piège, vous pouvez vous contenter de 2 ou 3. Donc si vous êtes lancé dans l'activité commerciale, vous comprenez qu'il est plus facile pour vous de vous procurer un calibre 12 où vous allez plus facilement avoir des quantités importantes que les pièges. Même dans des villages les plus reculés, parfois quand vous arrivez, quand vous trouvez du gibier, quand vous vous arrêtez, vous voyez que c'est le fusil qu'on a utilisé. Et c'est un véritable danger pour la protection des espèces.
Propos recueillis par Penaï Traoré, la chasse traditionnelle chez les Nzebi du Gabon, c'est le sujet de votre magazine. Un jour au village, rendez-vous tout à l'heure à partir de 13h10, temps universel, pardon, un mot de foot. Avant de se quitter, la CAN U20, fin de la première journée des phases de groupe. Dans la poule C, pas de vainqueur. Le Sénégal et la Centrafrique se neutralisent un partout, tout comme la RDC contre le Ghana. Du foot également, et la dernière marche vers le CHAN de cet été au Kenya. L'Afrique du Sud affronte le Malawi, c'est à 13h, temps universel.
Merci Arthur Ponchelet, à tout à l'heure.